Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
C'est avec vraiment beaucoup de joie que je vais entrer. Je dis de joie parce que j'aime la révélation, j'aime la parole. J'aime la parole, vraiment par-dessus tout. Amen. Et cette série d'enseignements-là, qui s'intitule donc « Au pied du Maître », nous allons vraiment nous asseoir au pied de Jésus pour pouvoir analyser sa vie et puis voir les éléments qui ont fait de sa vie un succès, qui ont fait de sa vie une réussite extraordinaire. Amen. J'avais écrit un texte là que je n'ai pas imprimé, je voulais le lire ce matin, mais je vais vous dire comme ça les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Jésus? C'est un homme qui est né dans un village quelque part en Israël. Amen. Jusqu'à présent, Israël, c'est vrai, est une grande nation, mais Israël ne fait pas partie des 8 plus grandes nations de la terre, ni des 10 plus grandes nations, ni des 20 plus grandes nations. Donc, il est né dans un village il y a 2000 ans de cela. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, il a travaillé dans l'atelier de son père adoptif, donc Joseph. Il a travaillé donc dans cet atelier-là pendant jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Et son ministère a duré 3 ans. Amen. En 3 ans, il a eu le temps de donner des enseignements. Il est devenu donc une sorte de prédicateur itinérant, de pasteur itinérant. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en Israël, à l'époque de Jésus, c'était quelque chose qui se faisait déjà. Il y avait eu déjà plusieurs prédicateurs, il y avait déjà plusieurs prédicateurs itinérants. C'était pas, il n'a pas été le premier à commencer à donner des enseignements. Mais il a commencé à 30 ans à donner des enseignements. Il est parti un peu partout, à Capernaum, à Bethléem, en Galilée, en Judée. Il a sillonné un peu les environs. Pendant 3 ans seulement, il a prêché. Il avait des disciples, à peu près 12 disciples qu'il a formés. 3 ans après avoir commencé son ministère, le peuple le rejette, tout le monde le rejette. Jésus a été rejeté par pratiquement tout le monde, excepté sa mère et ses disciples. Mais même sa mère et ses disciples, ils ont été obligés à un moment de fuir et de l'abandonner. Il est resté tout seul. Et il est parti à la croix seul. Il a été flagellé, il a été battu, il a été humilié dans un procès. Il a été cloué à la croix, il a été crucifié au milieu de 2 voleurs. On l'a traité comme un brigand. Et lorsqu'il fallait même l'enterrer, c'est dans un caveau emprunté qu'il a été inhumé. Et aujourd'hui, après toutes les guerres qu'on a connues, tous les grands chefs d'État, les grands hommes d'État, les grandes armées, les grandes nations, les grands pays, les grands discours, les grands philosophes, les grands financiers, les grands mathématiciens, les grands techniciens, les grands présidents, les grands gouvernements, les grands royaumes, après que tous ces, même avec tous ces royaumes qui sont succédés, il n'y a jamais eu sur la terre un homme qui a influencé autant la vie des hommes, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. My God. Il n'y a pas eu quelqu'un avec toutes les études. Jésus n'est pas allé à l'université. Jésus n'est pas allé dans une école biblique. Jésus n'a pas eu de connaissances ou de relations. Il n'était pas connecté au roi ou au président. Mais l'impact qu'il a eu sur la terre, personne n'a eu autant d'impact sur la vie des hommes, sur la vie de l'humanité, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. My God, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, il est l'homme le plus connu. Alors que de son temps, il n'y avait pas d'appareil à photo, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de livre. Il n'y a personne qui est arrivé à atteindre le niveau d'influence et d'impact qu'il a eu sur le monde. Ce Jésus-là, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur et c'est également notre Maître. Amen. C'est également notre Maître. C'est vrai, on peut être tenté de dire de Jésus, oui, mais Seigneur et Maître, c'est la même chose. Je dis non, Seigneur et Maître, ce n'est pas la même chose. Un Seigneur, on le révère, un Seigneur, on lui obéit, Un maître, il nous enseigne. Un maître, il nous apprend. Amen. Et c'est bien de connaître Jésus comme son Seigneur. C'est bien également de connaître Jésus comme son Sauveur. Mais c'est également bien de connaître Jésus comme son Maître. Alléluia. Et aujourd'hui, et pour la suite des dimanches que nous allons avoir, on ne va pas s'approcher de Jésus comme notre Sauveur. Parce que la plupart d'entre nous, Jésus est notre Sauveur déjà. Amen. Si Jésus t'a sauvé, dis Amen. Donc, on n'a plus besoin de te présenter en face de Jésus le Sauveur. On présente Jésus le Sauveur devant les païens. Amen. Mais, il est maintenant notre Seigneur. Amen. Qu'il nous dirige, qu'il nous conduit. On aime avoir une relation avec le Seigneur, mais il faut savoir que Jésus, sa vie elle, en elle-même, était un enseignement. Il a fait des choses, il a posé des actes, il s'est comporté d'une certaine manière. Et nous croyons que si nous faisons comme il l'a fait, nous allons avoir les mêmes résultats. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 39 à 40? Luc, chapitre 6, versets 39 à 40. Il dit au verset 39, il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Amen. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Amen. Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ensuite, il continue en disant, au verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire plus que son maître. Il peut faire plus. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, que si vous me suivez, vous allez faire non seulement les choses que je fais, mais vous en ferez encore plus. Mais il parle du comportement, il parle du caractère, il parle de la manière de faire. Il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Il va chercher à être comme son maître. Et donc nous devons apprendre au pied du maître qui est Jésus, amen, et chercher à être comme lui. Parce qu'il commence d'abord par dire, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut te parler du Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'expérience de Dieu peut te parler de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas expérimenté le brisement? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas déjà traversé le désert? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas déjà payé le prix du ministère? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas déjà une expérience dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que cette personne-là peut te conduire spirituellement? Si vous deux vous marchez ensemble, vous allez tomber dans la fosse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au courant, il ne connaît pas les pièges, il ne connaît pas les problèmes auxquels vous allez devoir faire face. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Vous savez, dans le ministère, les gens pensent qu'il s'agit des fois de pouvoir donner une prophétie pour entrer dans le ministère. Mais le ministère est la gestion quotidienne de plusieurs attaques et de plusieurs problèmes. Et le fait de donner des prophéties ne va jamais vous introduire dans le ministère. Ce qui va vous introduire dans le ministère, c'est d'apprendre au pied de quelqu'un qui déjà est dans le ministère. C'est pour ça qu'il dit que nous devons avoir des maîtres. Nous devons, c'est pas diabolique, hein, d'avoir des maîtres. Dis-moi qui t'enseigne, je te dirai qui tu peux devenir. My God. Dis-moi de qui tu tires tes enseignements, je te dirai ce qui va se produire dans ta vie. Si tu tires tes enseignements de quelqu'un qui a raté sa vie, de quelqu'un qui connaît pas Dieu, de quelqu'un qui n'a pas la foi, je sais où tu vas arriver. Amen. Mais ça ne veut pas dire que si ton maître est très bon, que tu seras forcément très bon. Parce que ce qui produit une bonne récolte, ce n'est pas seulement la qualité de la semence, mais c'est également la qualité de la terre. Il faut que la terre soit de bonne qualité et la semence de bonne qualité pour que ça produise du bon fruit. Donc ton maître va établir la dimension que tu vas pouvoir atteindre. Mais si tu ne fais pas comme il te dit, si tu ne deviens pas comme lui, si tu n'agis pas comme lui, si tu n'écoutes pas ses enseignements et que tu ne corriges pas ta vie, tu peux avoir le meilleur maître de la terre et être le pire élève. Jésus s'attend à nous. Amen. Jésus s'attend à ce que on essaie d'analyser sa vie et qu'on essaie de faire comme lui. Parce que, honnêtement, ce qui moi me concerne, je ne vois pas, je n'ai pas vu et je ne pense pas que je verrai un jour un meilleur modèle de réussite que Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie est un trésor d'enseignement. Sa vie est un trésor de sagesse. Sa vie est un trésor de révélation. Sa vie est un trésor d'enseignement. Sa vie est un trésor de vision, de puissance, de force, d'amour. Sa vie est un trésor de tout. En 3 ans, il a fait la démonstration de ce que un homme, oh my God, peut faire. Jésus a influencé des milliards de personnes. Pour moi, je ne pense pas avoir meilleur maître que Jésus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'aimerais que vous fassiez comme moi. Vous savez, une fois, Marthe et Marie ont reçu Jésus chez elles, à la maison. Marthe était en train de s'activer dans la cuisine. Et Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter ses enseignements. Et Marthe est venue, mais pourquoi tu es là, tu es assise au pied du Seigneur? Mais viens m'aider, il y a des choses à faire, il faut préparer. Jésus lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu te fatigues comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, il y a des personnes, vous savez, avant d'aller dans la vie, pour pouvoir se battre, et pour pouvoir gagner des marchés, et pouvoir monter son entreprise, il y a des éléments qui sont importants, qui sont capitales pour votre vie, qu'il faut saisir d'abord, avant d'aller sur le terrain. Beaucoup aujourd'hui sont désillusionnés, beaucoup sont frustrés, beaucoup ont des difficultés. Pourquoi? Parce que ils sont allés sur le terrain sans avoir l'équipement. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont reçu que des gifles en face, des gifles à gauche, des gifles à droite. Ils ont été giflés par la vie. Et aujourd'hui, ils sont un peu comme, ils ont maintenant peur. Mais les éléments de la vie, il dit, mais vous vous agitez, Marc, tu t'agites pour peu de choses. Elle a choisi la meilleure part. Parce que les choses qu'elle est en train de recevoir maintenant vont produire dans sa vie, vont lui permettre de pouvoir avoir le succès, de pouvoir avoir la victoire. Je vous dis une chose et je vous en prie. Je ne vous dis pas que lorsque vous allez venir à l'église Vie Victorieuse, vous allez commencer, vous n'allez plus être attaqué. Que le diable va vous laisser en paix. Que vous n'allez plus avoir des problèmes. Que vous n'allez plus avoir à faire face à des difficultés. Si c'est ce que tu penses, mon frère, tu te trompes. Mais une chose que je peux te dire, c'est que dans cette église, tu vas recevoir les enseignements qui te permettront de surmonter les obstacles, de contourner les difficultés et de faire fuir l'ennemi. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu sois prêt à apprendre. Il faut que tu écoutes la parole. Moi, j'ai du mal avec les personnes. Quand le culte commence, ils se promènent. Et après, quand le culte finit, oui, pasteur, j'ai tel problème, faut prier pour moi. Mais mon frère, le culte est aussi important. Parce que c'est un moment pendant lequel Dieu utilise la bouche du pasteur pour pouvoir te parler. Comment toi tu veux, tu nourris pas ta foi, mais que tu veux que ta foi soit opérationnelle. Oh, la Bible dit, oh, la foi vient. Elle vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, si tu veux avoir la foi face aux situations, ne méprise jamais le temps de l'enseignement, ne méprise jamais le temps de la parole. Ce n'est pas le moment où tu dois accepter que le diable vienne te distraire avec des pensées de ci, ou des pensées de ça, ou des pensées de ceci, mais c'est le moment d'être toujours concentré pour pouvoir saisir chaque parole, chaque mot. Parce que la Bible dit, tu dis souvent dans tes chansons, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et ma vie changera. Mais à quel moment Dieu va te dire un mot? C'est pendant l'enseignement qu'il va te parler. Amen. Tu penses que tu seras dans le métro et puis Dieu va dire, tu es libéré aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on veut... Non, c'est pendant le message. Il y a une parole qui sort, tu dis, ça c'est pour moi. Oh my God. Il y a une autre parole qui sort, tu dis, ça c'est pour moi. Et tu sens même parce que la parole est accompagnée de l'onction. Et elle vient te convaincre toi-même. Et tu sais que cette parole t'est adressée. Et tu marches sur cette parole et tu vois le résultat. Arrêtons de jouer. Nous sommes sur le pied de guerre. Quand je dis, il y a plusieurs dimanches de cela que nous sommes passés maintenant de là, on est rentré. Maintenant on est dans la phase de la conquête. Beaucoup de personnes pensaient que c'était juste pour introduire un message ou bien ce genre de choses. Mais quand on rentre en guerre, on est attaqué. Chaque personne sera attaquée avec des esprits de découragement, avec des esprits de distraction, avec des paroles négatives. Pourquoi? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut desserrer les liens pour que tout y ait la débandade. Les plus faibles parmi nous vont tomber. Les plus faibles parmi nous seront distraits. Mais ceux qui gardent le focus sur la vision, sur l'appel, sur Dieu, ils ne flancheront pas. Ils vont passer cette période d'épreuve, cette période d'attaque pour pouvoir entrer dans la victoire. Et quand nous allons voir les territoires tomber l'un après l'autre et le ministère s'agrandir, on va dire oui, nous étions là et oui, nous avons combattu jusqu'au bout. Ne vous laissez pas atteindre par les mensonges de l'ennemi. C'est un menteur. Il est un menteur et il est le père du mensonge. Et tout ce qu'il cherche à faire, c'est de nous distraire pour qu'on rate la saison. Parce qu'une fois qu'on a raté la saison, mon frère, tu as raté la saison des pommes, tu es obligé d'attendre l'autre saison pour manger encore. C'est tout. Tu rates l'ouverture de la mer Rouge. Faut pas penser que tu vas revenir, la mer Rouge va s'ouvrir pour toi. La mer Rouge, c'est pas une porte. Non. La mer Rouge est ouverte, les gens sont passés. Quand ça s'est fermé, là, c'est fini. S'il y a des gens qui disaient, non, j'ai un problème, allez régler Moïse, attends-moi, va régler ton problème. Quand tu vas revenir, les Moïse et le peuple d'Israël seront déjà de l'autre côté. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a marché selon certains principes. Amen. Qui nous permettront, nous, de connaître aussi le succès que lui, il a connu si nous suivons ses principes. Amen. Maintenant, ça prend de la sagesse pour pouvoir sortir de la vie de Jésus les enseignements, les messages de sa vie qui nous permettront de pouvoir aller de l'avant. La première chose, parce que il doit y en avoir au moins 40 au bas mot. Amen. Donc, on va aller principe par principe. Donc, ça serait une étude quasiment presque linéaire. Premier principe, Jésus avait quelque chose dont les autres avaient besoin. Amen. Et il le savait. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tout le monde a un problème. Tout le monde a un besoin. Tout le monde a quelque chose dont il a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir, pour pouvoir régler quelque chose, pour pouvoir changer ça. Tout le monde. Même les gens qu'on dit ils ont du succès, ils ont des besoins. Un chef de l'État, il a besoin d'avoir un cabinet, il a besoin d'avoir des ministres, il a besoin d'avoir un gouvernement, il a besoin d'avoir des milliers de personnes. Une femme d'affaires, même les stars, on dit, oh, c'est une star. Mais c'est une star, elle a besoin que son quotidien soit organisé et soit préparé. La plupart de ces personnes-là, ils ont besoin d'avoir un avocat, ils ont besoin d'avoir un conseiller juridique, ils ont besoin d'avoir un médecin particulier, ils ont besoin d'avoir une secrétaire particulière, ils ont besoin d'avoir un homme de main. Pour toute star que vous voyez, cette personne-là a besoin d'avoir un personnel d'au moins 10 à 15 personnes. Sinon, il pourra pas rester au niveau où il est. Même certains, on parlait la dernière fois de Tom Cruise, il avait besoin d'un conseiller en communication. Une conseillère en communication. Quand il a renvoyé la conseillère en communication et qu'il a engagé sa sœur, sa carrière a chuté. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à parler de la scientologie. Scientologie, scientologie. Les gens lui ont fermé la porte de Hollywood. Il a été renvoyé. Pourquoi? Parce que il avait besoin de la conseillère en communication. C'est elle, quand on l'interviewait, qui lui dit, tu parles, tu parles pas, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Quand le journaliste pose une question, elle dit, reformulez votre question. Tom, il répond pas. Il était comme un pantin entre ses... My God. Ils ont besoin. Il y a des gens qui disent, non, ils n'ont pas de besoin, mais vous savez que Mitterrand, chaque jour, il appelait une voyante parce qu'il avait besoin que quelqu'un puisse lui dire quand il faut parler, quand il faut pas parler et ce genre de choses. Cette femme a passé les enregistrements qu'elle a fait de Mitterrand quand il appelait pour consulter. Mitterrand consultait. Chirac consultait. Se promenait partout en Afrique, en Inde. Vous pensez qu'il partait chercher quoi? Pensez que les gens sont là, ils sont sur la terre, ils sont simples. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a un besoin. Tout le monde a des besoins. Il y a des gens qui ont besoin de se déplacer. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Il y a des personnes qui ont besoin de manger. Donc, si tu veux avoir du succès, identifie le besoin de quelqu'un. Pourvois à ce besoin-là, et cette personne va libérer entre tes mains des richesses et des bénédictions. Tout le monde avait un besoin. Et vous savez, tout le monde a pour vocation de régler un problème ou de répondre à un besoin. Si ta vie ne répond pas à un besoin, c'est qu'il y a un problème. Il faut retravailler ta vie. Ta vie doit répondre à un besoin ou doit régler un problème. Si quelqu'un a besoin d'être beau, que toi tu fais un travail qui permet de rendre les gens beaux, tu vas voir que tu vas commencer à gagner de l'argent, à avoir du succès et à t'enrichir. Si quelqu'un a faim et il a besoin de manger, maintenant, il y a plusieurs sortes de nourriture. Il y a des nourritures qui t'assomment, il y a des nourritures qui sont plus raffinées. Pourvois à un besoin et tu auras du succès. Jésus va me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile? Mais il faut comprendre que Jésus savait que les gens avaient un besoin. L'humanité avait un besoin. Amen. Le monde entier avait un besoin. Plusieurs personnes étaient opprimées par le diable. Plusieurs marchaient avec le poids des péchés. Jésus a offert le pardon des péchés aux pécheurs. Amen. Jésus est venu, il leur a dit, vos péchés peuvent vous être pardonnés. Et les gens qui croulaient sous le péché ont dit, ah, vraiment, on veut en savoir plus. Les gens qui étaient opprimés par le diable. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous connaissez Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Les gens, ils étaient liés, ils savaient pas comment se délier. Ils étaient possédés, ils savaient pas comment se libérer de ces chaînes. Et c'est Jésus qui est venu pour pouvoir les sortir. Jésus est venu régler un problème. Un problème de délivrance. Un problème de guérison. Alléluia. Le problème de libération. Jésus répondait aux besoins des gens. Plusieurs avaient faim spirituellement. Ils étaient affamés spirituellement. Ils avaient faim. Il y avait plusieurs prédicateurs en ce temps-là. Les gens venaient avec des messages. Mais quand Jésus a commencé à enseigner, il a dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, si un pasteur dit, venez, vous allez écouter la parole et vous allez être libérés, vous allez être délivrés, on dit, oh, c'est un charlatan. Donc Jésus est le premier des charlatans. Jésus a dit aux gens ce qu'il allait faire pour eux. Jésus savait ce qu'il devait faire dans leur vie. Il savait quelle était sa mission auprès d'eux. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une mission auprès de nos semblables. Dis à ton voisin, tu es en mission. Parce que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas arrivé comme ça par hasard. Tu n'es pas un accident de la nature. Dieu dit que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu ne crée pas les gens pour rien. Dieu les crée pour atteindre un objectif. Il les crée avec une mission. En réalité, les gens pensent que Dieu nous crée. Et après maintenant, en fonction de notre caractère, en fonction de la manière dont on est, il détermine maintenant la mission qu'il va nous assigner. Mais les gens qui pensent ça sont des personnes qui n'ont jamais créé quelque chose. Parce que quand tu crées, tu ne dis pas après avoir créé ce que la chose va faire. Tu commences d'abord par dire, avant de créer, ce que la chose que tu es en train de créer va faire. Donc, Dieu ne te donne pas une mission par rapport à ton caractère. Dieu te donne à établir ta mission avant de te créer. Donc, par rapport à cette mission, tu es la meilleure personne capable de pouvoir mener cette mission à bien. Alléluia. La meilleure personne. Tu es la solution au problème de quelqu'un. Au moins, si tu n'es pas la solution au problème de beaucoup de personnes, au moins tu es la solution pour une femme, tu es la solution au problème de ton mari. Au moins ça. Dis à ton voisin, tu es la solution au problème de quelqu'un. Alléluia. Tu es la solution au problème de quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, leur vie consiste à trouver des problèmes. Mais quelqu'un qui trouve toujours des problèmes, il vous agace très rapidement. Parce que les gens qui trouvent des problèmes, on en trouve. Mais les gens qui trouvent des solutions, on en cherche. Arrête de trouver des problèmes. Commence à trouver des solutions. Et les gens vont venir à toi. Les gens avaient des problèmes de péché. Ils avaient des problèmes de démons. Ils avaient des problèmes de maladie. Ils avaient des problèmes de faim. Ils avaient des problèmes de pauvreté. Jésus a dit, vous tous qui avez des problèmes là, venez. Pourquoi? Parce que il est la solution au problème de l'humanité. Alléluia! Il est la solution au problème de l'humanité. Et il veut que nous devenions la solution au problème de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un problème. Et tu es la solution à son problème. Regardez le général Naaman. Avec tous ses diplômes, toute sa puissance, toute son énergie, toute sa force. Il avait un problème. Il avait la lèpre. Et en ce temps-là, ses richesses ne pouvaient rien faire contre la lèpre. Mais dans sa maison se trouvait une petite servante insignifiante qui était la solution à son problème. Vous pensez que le DG n'a pas de besoin? Vous pensez que le PDG n'a pas de besoin? Vous pensez que, oh my God, vous pensez qu'il y a des gens sur cette terre-là qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de besoin? Tout le monde a des besoins et des problèmes. Et ceux qui arrivent à résoudre les besoins et les problèmes des gens sont ceux-là qui ont du succès dans la vie, sont ceux-là qui réussissent. Donc, quand tu vas rentrer à la maison, commence à prier, Seigneur, quel est le problème que je dois résoudre? Quel est le problème que je dois résoudre? Dites-moi qui a du succès sur cette terre. Et je vais vous dire quel problème il aide à résoudre. Ta vie trouvera son sens lorsque tu trouveras le problème que le Seigneur t'a appelé à régler. Très souvent, comment tu vas savoir quel est le problème que tu as appelé à régler? Quel est le problème que tu as appelé à résoudre? Souvent, c'est le problème qui te fatigue. Alléluia. C'est le problème qui, c'est le besoin que tu as, le problème qui te fatigue. La situation qui veut te paralyser, qui veut t'empêcher d'avancer. Le problème qui essaie de bloquer ta vie. My God. Quand tu prends, tu fléchis les genoux, tu pries, tu réfléchis, tu cherches la face de Dieu. Tu trouves, une fois que tu as trouvé la solution à ce problème-là, sache que il y a d'autres personnes qui ont le même problème que toi tu vas pouvoir résoudre dans leur vie. My God, my God, my God. Tu sais, oh, on peut réussir avec tout. Regardez aujourd'hui. Moi, hier, j'ai pris un temps de repos et tout. J'allume la télévision, M6, je vois deux dames qui font le ménage. Eh ouais, elles font le ménage. Elles nettoient les maisons, tout ça. On dit, mais on les a présentés. Oui, ces femmes, elles ont appris de l'expérience qu'elles ont eue après plusieurs années de ménage. Maintenant, aucune tâche, aucune saleté, aucun problème ne leur est insurmontable. Elles sont capables. Elles sont arrivées dans la maison d'une femme, la maison, même une porcherie est plus propre. Elles sont venues, après leur travail, la maison était propre. Quand la femme est rentrée dans sa maison, elle a failli avoir une syncope tellement le truc était nettoyé. Ces femmes-là, elles font des publicités. Elles gagnent de l'argent. Tu vas dire, moi, je ne peux pas faire ménage. Ménage, là, il y a quoi dedans? Mais elles, là, elles font des millions d'euros sur ménage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir comment arranger leur maison. Elles ont identifié le besoin. Elles pourvoient au besoin. Elles reçoivent la récompense. Tu veux prospérer? Tu veux avoir du succès? Tu veux réussir? Identifie le besoin. Identifie un besoin. Identifie un besoin. Si tu identifies seulement que dans cette usine-là, les employés ont besoin de manger. Mais il n'y a aucun restaurant autour. Bon, je vais trouver une camionnette et je vais demander au patron si je peux mettre ma camionnette aux heures de repas devant son truc. Il va accepter. Pourquoi? Parce qu'au moins les employés ne vont pas aller faire des kilomètres pour aller manger et revenir en retard. Au moins, ils vont pouvoir en une heure manger et revenir. Le patron te dit vraiment, c'est une très bonne idée, vous pouvez le faire. Tu viens de répondre à un besoin. Tous les employés, ils vont venir manger chez toi. Et qu'est-ce qui va commencer à tomber? Amen. On va dire non, c'est diabolique. C'est pas diabolique. Jésus est venu pour répondre aux besoins, pour répondre aux besoins de l'humanité. Toi, tu es appelé à faire comme le maître. Tu dois répondre aux besoins de quelqu'un sur cette terre-là. Si ta vie ne répond pas aux besoins de quelqu'un, si ta vie n'est pas la solution à un problème, au problème de quelqu'un, c'est que ta vie est un gaspillage et ta vie est inutile. C'est que ta vie est inutile. Tu vas dire, mais pasteur, c'est dur. Hein? Jésus a dit pire que ça. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel venait à perdre sa saveur, avec quoi on va lui donner cette saveur? Il est bon qu'à être foulé, à être jeté dehors et à être foulé aux pieds. Pourquoi? Parce que le sel répond à un besoin. Ça répond au besoin d'avoir de la saveur dans un repas. Si tu mets du sel dans ta sauce ou dans ton repas et tu manges, ça n'a pas de goût, ça n'a pas vraiment ce goût sale. Qu'est-ce que tu vas faire de la boîte là? Tu as déjà mis une cuillère, deux cuillères, trois cuillères, tu mélanges, il n'y a rien. Tu fais quoi? Tu vas jeter. Il y a des gens qui disent, oui, je suis sur le bord de la route. Mais tu es sur le bord de la route parce que tu ne sers pas. Il y a une femme qui est morte dans l'église primitive. Quand la sœur est morte, la sœur Dorcas, l'apôtre Pierre est sorti, dit, Seigneur, tu peux prendre tous les moments que tu veux dans l'église. Mais Dorcas seulement là, il faut la laisser ici avec nous. Les autres l'avaient, si tu veux, prends 10, mais donne Dorcas parce que on a besoin de la sœur Dorcas. Dieu a exaucé la prière. Dieu a ramené Dorcas à la parce qu'il a vu qu'elle était la réponse à un besoin, à un problème dans l'église et qu'aucune des autres femmes qui étaient dans l'église ne pouvait régler le problème que Dorcas réglait dans l'église. Commence à régler les problèmes. Commence à régler les problèmes. Tu vas trouver un sens à ta vie. Arrête d'envoyer des problèmes aux gens. Commence à régler les problèmes. Je dis, même les hommes, quand ils cherchent une femme, il y a des femmes, vous savez, nous, entre nous les hommes, il y a des choses qu'on se dit. La première phrase que tu peux dire à un homme pour le décourager d'une sœur, vous savez c'est quoi? On a mis ça là, c'est problème. Hein? Le gars va, il va fuir. Si on lui dit que cette femme-là, c'est un problème, il va fuir. Parce qu'effectivement, sur la terre, il y a des femmes qui sont des problèmes. Il y a des femmes, quand tu t'approches d'elles, mais tous ces problèmes, elle va aller, elle va venir, elle va pas déposer ses problèmes au pied de la croix. Hein. Le jour où elle vient ménager chez toi, elle vient avec deux gros sacs de problèmes. Tu vas soulever ça, si tu es au quatrième étage, il n'y a pas d'ascenseur. Au moment où tu arrives même à la moitié du chemin, déjà tu commences à regretter. Maintenant, au moment où tu déposes, elle dit, oh chérie, fais vite, il y en a encore beaucoup en bas, ici qui t'attendent. My God! Tu vas dire, mais... Elle a des problèmes psychologiques, elle a des problèmes existentiels, elle a des problèmes émotionnel, elle a des problèmes. Donc, à partir du moment où tu sens que toi-même, tu as déjà des problèmes. Toi-même, tu as déjà tes propres problèmes. Et que maintenant, la personne veut venir maintenant pour ajouter à tes problèmes sans apporter de solution, ça devient compliqué. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une transformation qui doit se faire. Dans la mentalité. Les gens qu'on cherche, ce ne sont pas des gens qui trouvent des problèmes. Les gens qu'on cherche, c'est des gens qui trouvent des solutions. Mais les entreprises, ils dépensent des millions et des millions dans la communication pour trouver des gens qui trouvent des solutions. Et paradoxalement, alors que on te dit, au moment où on t'embauche, nous, c'est le SMIC. Si le SMIC ne t'intéresse pas, tu peux continuer ton chemin. Il y a des gens qui gagnent le SMIC. Est-ce que tu peux faire augmenter ton SMIC? Tu peux. Si tu réponds à un problème dans l'entreprise, le jour où tu vas te dire au patron, eh bon, écoutez, moi, vraiment, j'ai une autre proposition, je vais aller. Il va dire, non, non, je vous en prie, restez là, parce que vraiment, vous m'êtes essentiel dans le dispositif. Tu vas dire, bon, je suis essentiel à quel niveau? il va comprendre. Au niveau de 2000, tu dis non, 2000 c'est trop petit. 2500, tu dis bon, à partir de là je peux réfléchir, mais les autres me proposent 3000. Bon, moi je sais 3500. Pourquoi? Parce que le problème que tu résous dans l'entreprise est largement supérieur aux 3500 qu'il est prêt à te donner. Mais si tu ne résous pas de problème, et que le problème que tu résous, en fait, il y a 10 000 personnes qui peuvent résoudre le même problème. Dis, mon frère, c'est les SMIC. Apprendre ou à laisser. D'ailleurs, même, il y a des gens qui font la queue pour pouvoir entrer. Or, quand ils vont engager des gens, des fois, ils vont engager des gens, ils sont prêts à leur donner même 12 000, 15 000, 50 000. Il y a des gens qui gagnent 100 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à résoudre des problèmes de plusieurs millions d'euros. Donne un sens à ta vie. La première chose que Jésus avait lorsqu'il venait sur la terre, il avait un sens à sa vie. Il était un homme en mission. Jean le Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici celui qui résout les problèmes de péché. Voici celui qui résout le problème de délivrance. Voici celui qui résout le problème de guérison. Voici celui qui résout le problème de la faim et de la soif spirituelle. Voici celui qui résout le problème de la vie des hommes. Et quand les gens ont vu en lui quelqu'un qui était une solution à leurs problèmes, ils ont tous commencé à courir vers lui. Et jusqu'à présent, quand quelqu'un a des problèmes, sérieusement, et qu'il a tout essayé, et qu'il n'a pas trouvé de solution, vers qui il s'en va? Vers Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est la solution à nos problèmes. Tu peux acclamer le Seigneur, c'est pas un péché. Alléluia. Tu es en mission. Dis amen. Dis à ton voisin, tu es en mission. Hein? Touche deux personnes, trois personnes à côté de toi. Tu dis, tu es en mission. Alléluia. Voilà. Tu n'es pas en promenade. Tu es en mission. Amen. Quand tu arrives dans un endroit, il faut te poser la question, quelle est ma mission dans cet endroit? Il ne faut pas aller en promenade. Même quand tu vas rendre visite à quelqu'un, il ne faut pas aller en promenade. Va en mission. Qu'est-ce que cette visite, qu'est-ce que je dois produire dans cette visite? Qu'est-ce qui doit être produit à travers cette visite? Soit quelqu'un qui ne gaspille pas son temps. Soit quelqu'un qui est en mission. Quelle est la mission de cette conversation? Est-ce que la mission c'est pour m'achoper? Est-ce que c'est pour détruire ma foi? Est-ce que c'est pour m'attrister? Ou bien est-ce que c'est pour me booster? Est-ce que c'est pour m'encourager? Est-ce que c'est pour me rendre plus fort? Si la mission de cette conversation est ton affaiblissement, ma sœur, que Dieu te bénisse, j'ai quelque chose d'autre à faire. Si la mission de cet appel-là, c'est pour pouvoir t'encourager, te fortifier, te rendre encore plus fort, te dis non, ma sœur, ça va aller. Ok, dis encore. Alléluia. Oui, ma sœur, dis encore. Amen, amen. Dans ta conversation, quand tu as au moins 3-4 amen, c'est que c'est positif. Tout a une mission. Moïse, et la mission, une mission, c'est souvent, c'est toujours même auprès d'un homme, des hommes. Amen. Moïse avait une mission auprès des Israélites, des Israéliens. Sa mission, c'était de les faire sortir de l'Égypte pour les faire entrer à Canaan. Aaron, lui, il avait une mission aussi. Sa mission était auprès de qui? De Moïse. Moïse a une mission auprès du peuple. Aaron a une mission auprès de Moïse. Amen. Un avocat, il a une mission auprès de qui? De ses clients. Sa mission, c'est quoi? De faire que tu sois... Et voilà, tu gagnes ton procès. Si tu gagnes ton procès, il gagne beaucoup d'argent. Moi, comment vous savez quand un avocat est très bon? Généralement, il se fait payer sur les résultats. Il y a des avocats, ils te disent, non, donne l'argent maintenant, tout de suite. Il faut savoir que... S'il te met la pression pour que tu le payes avant le procès, c'est que il n'a pas l'intention de se battre pour que tu sois acquitté ou bien pour que tu gagnes le procès. Il veut s'assurer que ses pépites sont bien rangées et puis maintenant il arrive en retard. Toi-même tu es étonné de voir l'attitude de l'avocat. Au moment où il doit venir plaider, il se fait remplacer par un stagiaire et tout ça. C'est parce que tu as payé à l'avance. Mais si tu as un problème, par exemple, de, je sais pas, de 15 millions ou bien de 20 millions, et que Tu lui dis, bon, ok, c'est quoi vos honoraires? Il te dit, mes honoraires, c'est 3000, par exemple, 3000 euros. Tu dis, ok, voilà vos 3000 euros. Mais, vous me gagnez ce procès-là, vous avez 10%. Il va calculer tout de suite. 10% de 10 millions, ça fait 1 million d'euros. My God! Il va bloquer tout son cabinet d'avocats. Ils vont travailler sur ton dossier. C'est lui-même qui va plaider. Si l'audience est à 10 heures, à 9h30, il sera là, avec son équipe, avec ses assistants. My God! Vous savez, parce qu'il a une mission. Tant que tu lui donnes pas une mission, il risque de ne pas bien travailler. Un docteur, il a une mission auprès de ses patients. Le président de la République, il a une mission auprès du pays. Et les ministres, ils ont une mission auprès de qui? Gloire à Dieu. Il y a des gens qui comprennent. Les ministres, les gens pensent que le ministre a une mission auprès du pays. Il n'a pas de mission, c'est le président qui le nomme. Même le premier ministre. Le premier ministre n'a pas gagné des élections. Tous les discours que les gens font, oui, il n'utilise pas son premier ministre, machin. Mais c'est normal. S'il voulait être président, qui se présente aux élections? L'autre, il est président, c'est lui qui met les gens qui travaillent avec lui. Et il faut comprendre ce principe-là aussi dans l'Église. Donc, oui, c'est très important. Le pasteur est en mission. Le pasteur a une mission auprès de ses fidèles, premièrement. Auprès de la communauté, ça c'est en troisième plan. D'abord, dans une église, il y a trois catégories de personnes. Il y a les visiteurs, il y a les membres, il y a les fidèles, et puis une autre catégorie, il y a le noyau même. Jésus, il y avait les trois, il y avait les 12, il y avait les 70 et il y avait les 500. Amen. Donc, le pasteur a une mission auprès de chacune de ces personnes. Et les missions sont différentes. Le pasteur ne peut pas avoir la même mission auprès de quelqu'un qui se promène que de quelqu'un qui est dans le noyau. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, quand quelqu'un a une mission auprès de toi, toi également, tu as une mission auprès de lui. L'avocat, il a une mission auprès de son client. Le client a une mission aussi auprès de l'avocat. Le médecin, vice-versa. Chaque personne, quand le pasteur a une mission auprès de l'église, les membres de l'église aussi ont une mission auprès du pasteur. Ils doivent s'arranger pour que le pasteur puisse se concentrer sur ses messages. Ils doivent s'arranger pour que le pasteur puisse avoir le temps de prier. Ils doivent s'arranger pour que le pasteur puisse exercer correctement son ministère. Plus ils accomplissent leur mission auprès de leur pasteur, plus la mission du pasteur auprès d'eux sera efficace. La meilleure manière de faire les choses bouger, ce n'est pas en trouvant les problèmes. C'est en trouvant des solutions. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes vous écrivent, ou bien vous appellent, ou bien vous parlent pour vous dire, « Pasteur, il y a un problème. » Oui. Mais quand il y a une personne qui dit, « Pasteur, j'ai trouvé une solution à un problème. » Tu dis, « Oui, ma soeur, parle, parce que vraiment, c'est une denrée rare. » C'est rare. Je voulais parler sur quatre points, j'ai parlé sur un seul point. Le maître, deuxième point. On va s'arrêter là et on va continuer dimanche prochain. Qui va en entendre encore plus? Qui sait qu'il y a beaucoup de choses? Donc Jésus, il était trop fort. Sa vie, c'est la seule vie même qui mérite à être étudiée et à être copiée. Amen. À 12 ans déjà, Jésus était conscient de la mission. De sa mission. Quand ses parents lui ont dit, mais où tu es, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On te cherche depuis, on doit partir à la maison. Il dit, écoutez, je dois m'occuper des affaires de mon père. Il connaissait déjà sa mission. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Alléluia. Tout le monde n'a pas la mission de prêcher l'évangile, d'être pasteur. Tout le monde. Non. On dit là-dedans, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, évangélistes. Tout le monde n'est pas appelé à être dans ces cinq ministères. Mais tout le monde a une mission. Il y a des personnes ici qui ont une mission auprès des prisonniers. Il y a des personnes ici qui ont une mission auprès des prostituées. Il y a des personnes ici qui ont une mission auprès de ceux qui sont perdus. Tu as une mission auprès de ton mari, auprès de tes enfants. Tu as une mission auprès de tes enfants. Tu ne peux pas élever des enfants, ne pas les mettre en contact avec Dieu. Tu as une mission auprès d'eux. tu dois leur donner les éléments qui sont nécessaires pour leur succès dans la vie. Les parents ont une mission auprès des enfants. Amen. Tu as une mission dans ton entreprise. Tu as une mission dans ton entreprise. Tu as une mission dans tout ce que tu fais. Alléluia. L'autre chose, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait. Jésus croyait en lui-même. Amen. Dis à ton voisin, crois en toi-même. Il y a des gens qui pensent que croire en soi, c'est de l'orgueil. C'est pas, croire en soi n'est pas de l'orgueil. Jésus a dit, croyez en Dieu. Et croyez aussi en moi. Amen. Et il a dit que soyez parfaits, comme mon Père est parfait. La Bible dit également, soyez les imitateurs de Dieu. Car nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Nous devons croire en nous-mêmes. Si tu ne crois pas en toi, toi-même tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Crois en ton potentiel. Crois au fait que tu es la solution au problème de quelqu'un. Parce que si tu ne crois pas en toi, quand tu vas arriver chez les gens, tu vas bégayer. Quand tu vas arriver chez les gens, tu vas avoir peur. Quand tu vas arriver chez les gens, tu vas même pas, il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler du Seigneur à leur famille. Mais c'est parce que ils ont un problème d'estime d'eux-mêmes. Ils ne croient pas en eux. Jésus croyait en lui. Jésus croyait qu'il pouvait changer les gens. Il croyait qu'il pouvait les satisfaire. Regarde dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 13 à 14. Jean chapitre 4, verset 13 à 14, il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Amen. Or, c'est Jésus qui demande de l'eau. Jésus, il avait soif. Ce n'est pas la femme qui lui a demandé de l'eau, mais c'est lui qui a demandé de l'eau à la femme. Mais quand bien même la femme lui a répondu, mais elle a commencé à rentrer dans les discussions, Jésus lui a dit, écoute, moi, l'eau que moi je donne aux gens est une eau qui va satisfaire leur vie de manière éternelle. Alléluia. Il croyait en lui. Il savait ce qu'il avait. Quand quelqu'un te dit, mais tu parles de Jésus là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il ne faut pas lui dire, non, en fait, tu sais, la religion, maintenant les gens n'ont plus trop la foi, mais pour croire, pour ne pas croire, c'est qu'on croit, tu rentres dans les philosophies là, je ne sais pas dans quelle école biblique on t'a mélangé la tête. Tu dis, ce que Jésus a fait pour moi, personne n'a pu le faire. Il a transformé ma vie. Il m'a révolutionné. Et ce que Jésus est capable de faire dans ta vie, tu ne peux même pas t'imaginer. Il va dire, ah bon? Dis-moi encore un peu plus. Faut savoir. Ça va choquer des gens. Hein? Faut savoir vendre la chose. Faut savoir communiquer le message. Faut savoir dire. Mais quand il a fini de parler à la femme a couru, elle allait dans le village. Elle n'est pas revenue seule, hein? Elle est revenue avec une foule d'une situation où il partait boire de l'eau. Il a demandé de l'eau à une femme. Il arrive à une situation où il est en train de partager la bonne nouvelle à des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que la femme est partie. Oh, venez voir. Il y a un prophète qui m'a dit tout ce qui se passait dans ma vie. Elle n'est pas venue dire le Fils de Dieu est là. Si elle était venue dire le Fils de Dieu, elle lui dit, il est quitté où? Il est descendu devant toi. À quel moment elle est descendue? Comment elle est descendue? Ils allaient rentrer dans des discussions théologiques. Elle-même, elle a voulu rentrer dans une discussion théologique en disant, oui, les Juifs disent qu'on doit adorer ici, les Samaritains disent que... Il lui a dit, laisse ça là. Moi, j'ai une eau. Si je te donne cette eau-là... Alléluia! Alléluia! Et aujourd'hui, quand on parle de l'évangile, de la bonne nouvelle, quand on donne des paroles positives, On veut nous traiter de charlatans, de gens... Non! Donner la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens ce que Jésus peut faire pour eux. Ce que Dieu peut faire dans leur vie. Alléluia! Alléluia! Jésus a dit, le diable, il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie
et que vous soyez dans l'abondance. Jésus croyait en lui. Il croyait en son message. Amen. Arrête de douter. Il faut croire en toi. Tu dois savoir qui tu es et tu dois croire en toi-même. Amen. Arrête de douter, mais gagne en assurance. En augmentant quoi? Ta connaissance. Amen. En augmentant quoi? Les choses que tu fais. En augmentant aussi quoi? Les activités, même le ministère que tu exerces. À chaque fois, il faut toujours chercher toujours à augmenter l'impact, à le faire grandir. Amen. Amen. En te disant que tu es la solution au problème de quelqu'un. Troisième clé. On va essayer d'avancer quand même parce qu'il y en a beaucoup. On a près de 40. Amen. Troisième clé, c'est que le maître ne trompait personne. Jésus n'a jamais trompé quelqu'un. Amen. Tous ceux qui s'approchent de toi, ils ont besoin d'entendre la vérité. Beaucoup ne veulent pas entendre la vérité. Je n'ai pas dit qu'ils veulent entendre la vérité. Hein. Je dis qu'ils ont besoin d'entendre la vérité. Très souvent, tu seras la seule personne ou la dernière personne à être capable de leur dire la vérité. Ils vont peut-être te tourner le dos. Ils vont certainement te traiter de quelqu'un de dur, de quelqu'un de méchant. Parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Et quand ils entendent une vérité, tout de suite, au lieu de voir le changement qu'ils doivent opérer dans leur cœur et dans leur vie pour pouvoir s'aligner sur la vérité, ils vont essayer de fustiger et d'attaquer la personne qui leur a dit cette vérité. Mais toi, dis la vérité. Pourquoi? Parce que après un certain temps, après quelques mois pour certains, après quelques jours pour d'autres, après quelques années, même pour certains, vous savez, soyez prêts à ce que des gens vous tournent le dos. Ils peuvent revenir même 10 ans plus tard et vous dire, mon frère, ce que tu m'as dit là, c'était la vérité. Alléluia. Ce que tu m'as dit là, c'était la vérité. J'ai pas voulu écouter. Je suis allé, j'ai tourné, mais je me rends compte aujourd'hui que c'était la vérité. N'accepte jamais de changer la vérité pour le mensonge, pour pouvoir garder une relation. Dis la vérité. Même si cette relation-là est sur le plateau, dis la vérité. Parce que mieux vaut bâtir des relations sur la vérité que de bâtir des relations sur le mensonge et sur le compromis. Dis à ton voisin, dis la vérité. Amen. Les gens ont besoin d'entendre la vérité. Jésus a toujours été franc avec ses disciples. Il leur a jamais donné une image tordue. Il leur a dit, c'est vrai, il leur a dit, mon père a une grande demeure, je m'en vais pour vous préparer une place. Mais il leur a dit aussi, vous allez être persécutés. Amen. Il leur a dit, vous allez être persécutés. Il leur a dit, il leur a prophétisé des afflictions. Il leur a dit, les gens vont vous poursuivre, les gens à cause de moi. Mais s'il ne leur disait pas ces choses-là, au moment où les gens les poursuivaient, au moment où ils étaient persécutés, il n'allait pas avoir la foi de pouvoir surmonter, de pouvoir soutenir. Il y a beaucoup de personnes, quand tu leur dis, ma sœur, tu sais, aujourd'hui, quand quelqu'un vient voir un prophète ou un pasteur, il s'attend toujours à ce qu'on lui dise quelque chose de positif. Et le pasteur ou le prophète, quel que soit ce qu'il voit dans la vie de la personne, il va toujours transformer ça pour mettre en positif. Moi, je vais vous dire quelque chose honnêtement. Un prophète qui ne voit que du positif, je me méfie de lui. Quand je suis assis ici et puis les prophètes prophétisent et puis c'est que des bonnes choses, je me méfie. Surtout des fois, je connais la personne. Et je sais que, en tout cas, tant que la vie de la personne reste comme ça, là, aucune bonne chose ne peut se produire. Que la personne dit quand même qu'il y aura une bonne... Moi, j'ai vu il y a des gens qui sont étonnés par les prophètes. Moi, j'ai vu des gens dire, ainsi parle l'Éternel, dans 2 ans, tu auras une radio. 10 ans plus tard, il n'y a pas de radio. Dieu va te donner une promotion. Il n'y a pas de promotion. Dieu va te donner un mari. Il n'y a pas de mari. Dieu va te donner un enfant. Il n'y a pas... Restez, attends. Vous pensez que c'est tout ce que les gens disent ou racontent qui s'accomplit? My God! Vous pensez que Dieu n'attend pas à ce qu'on change, à ce qu'on transforme nos vies, à ce qu'on arrête certaines choses? La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Il disait la vérité aux gens. Mon frère, tu continues, tu vas voir. Tu t'es égaré. Tu peux dire à quelqu'un, tu es en train de te perdre. La personne va dire, oh, 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 oh. Parce que quand on lui a rempli la tête,
et qu'on lui a rempli le cœur de paroles, de séduction, il pense qu'il est dans le vrai. Les gens ne font jamais du mal par méchanceté pure. Ils font du mal parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Vous pensez que les kamikazes qui viennent se faire exploser, vous pensez qu'ils savent qu'ils sont en train d'aller en enfer? Ils le font parce que pour eux, ils combattent le bon combat. Et qu'ils se sacrifient pour la bonne cause. Et qu'ils font le djihad islamique. Et qu'ils sont les héros de Dieu. Ils sont convaincus de cela. C'est pour ça qu'ils le font. Il y a des gens qui font des choses, qui posent des actes, qui disent des choses. Parce qu'ils sont, mais c'est parce qu'ils sont convaincus. Mais toi, dis-leur la vérité. Et laisse la vérité faire son chemin. Alléluia. Dieu va faire. Dis à ton voisin, Dieu va faire. Dis la vérité. Dis la vérité. Alléluia. Une autre chose, et je vais terminer par ça. My God, je suis en train de jouer dangereusement avec le temps. Mais il faut qu'on avance. Tu sais, quelqu'un a besoin de toi. Amen. Ça tu le crois. Qui croit que quelqu'un a besoin de lui? Amen. Quelqu'un a besoin de toi. Maintenant, une autre chose que tu dois faire, qui est importante aussi, c'est de trouver cette personne. Trouve cette personne. Amen. Dis à ton voisin, passe en mode actif. Amen. Va vers le voisin. Va vers les membres de ta famille. Prends le téléphone. Appelle les gens. Appelle les gens que tu connais. Appelle les gens à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Amen. Écris à ton ami. Ta meilleure amie, ton ami d'enfance. Écris. Tu sais, il y a des gens qui vont te reprocher au ciel là-bas. Mais toi, tu es méchante. Donc, tu connaissais le Seigneur. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui? Combien de personnes tu connais à qui tu n'as pas parlé de Jésus? Parle-leur. Passe en mode actif. Amen. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans te connecter aux autres. Les gens qui réussissent seuls, là, ça n'existe pas. Pour réussir, tu es obligé de te connecter aux autres personnes. Tu es obligé. Tu vas dire, oui, je suis timide. Je suis timide. Mais la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. La timidité ne fait pas partie de notre programme. Si tu dis tu es timide, quand tu vas commencer à parler, la timidité va partir. Mais passe en mode actif, je t'en prie. Vous savez, Jésus, il aurait pu dire, il aurait pu rester au ciel. Pourquoi quand il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, il était à Jérusalem avec les gens. Il aurait pu rester au ciel. Et puis dit, venez à moi. Comment les gens allaient venir vers lui? Moi, je m'imagine seulement le paralytique. Celui qui était malade, 38 ans au bord de la piscine. Tu t'imagines? Jésus, le grand Jésus, il a quitté son palais au ciel. Il est descendu sur la terre pour aller. Et ce monsieur avait un rendez-vous justement avec ce Jésus-là au bord de la piscine. Amen. Jésus est descendu vers nous. Jésus est venu vers les gens. Amen. Les personnes vers qui tu as envoyé en mission vont rarement venir vers toi d'eux-mêmes. Si tu ne rentres pas en contact avec eux, tu dois aller vers elles. Amen. Tu dois aller vers elles. Jésus n'a pas installé un trône quelque part et puis il a dit, venez, il allait vers les gens. Vous connaissez le ministère de Jésus, non? Hein? Il allait vers les gens. Il allait dans les marchés. Il allait dans les synagogues. Il allait dans les maisons. Il allait visiter les gens. Il allait au marché. Il allait apporter la parole. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens de communication pour être en contact avec les gens. Nous avons les journaux. Nous avons les magazines, on a Internet, on a la télévision, on a les livres, on a les DVD. Toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir aller vers les gens, de pouvoir toucher les gens. Amen. Vous allez me dire, oui, mais quand on a du succès, on n'a pas besoin. Je vous dis, les gens qui ont du succès, au contraire, vous prenez tel magazine, ils sont dedans. Vous les voyez sur les affiches. Vous voyez à la télé. Même la télé, même, il y en a qui se battent pour être toujours à la télé. En une semaine, il faut qu'ils soient au moins une fois ou deux fois à la télé. Vous savez pourquoi ils se battent pour aller à la télé? Parce que quand tu es à la télé, tu ne peux jamais savoir qui se trouve derrière l'écran. Parce que derrière l'écran, il y a des gens qui ont besoin de leur service. Et quand ils sont à la télé, ils sont en train de contacter ces personnes-là pour leur dire. Et vous allez voir que toujours après une interview, après une discussion, on va toujours donner les contacts de la personne. Aujourd'hui même, on n'a même plus besoin de donner les contacts. Il suffit que la personne connaisse ton nom, il tape ton nom, il va avoir tes contacts. Mais ils veulent être présents. Je me suis demandé un jour, mais pourquoi? Il y a des gens qui sont connus. Mais quand bien même ils sont connus, quand ils viennent dans un pays, ils font la publicité.
Il y a des artistes qui sont déjà connus. On n'a même plus besoin d'appeler leur nom, même tout le monde connaît leur nom, tellement ils ont vu. Mais quand la personne vient, il est sur les bus, il est sur les affiches, il est dans les journaux, il est dans les magazines. Et je vais vous dire une autre chose que beaucoup ne savent pas et qui est très importante. Même les hommes riches, les hommes puissants, on peut toujours les contacter. Vous allez me dire, pasteur, comment? Dans tous les grands hôtels, dans toutes les grandes entreprises qui se respectent, tout patron qui se respecte se garde toujours informé. Ils lisent tous au moins un journal. Vous demandez pourquoi les gens mettent la publicité dans les journaux. Même les voyants, Seri Badja, grand magicien venu de Guinée, règle tous les problèmes de sorcellerie. Vous pensez que un PDG d'une grande société peut être là et se dire vraiment ça va pas, j'ai trop de difficultés, je comprends pas. Et puis au moment où il ouvre son journal, Seri Badja, grand sorcier venu d'Afrique, règle tous les problèmes de. Il va dire, mais. Et voit le numéro. Il va téléphoner. Oui, je suis. Il va pas vouloir dire son nom, mais je suis une personne très importante, j'ai besoin de vos conseils. Lui, il a contacté. Oh my God, my God. Mais vous pensez que vous pouvez contacter les gens riches? Vous pouvez contacter les gens puissants? Tout dans la vie, là, il y a des personnes, leur vie va changer quand ils vont rentrer en contact avec certaines personnes. Mais pour ça, il ne faut pas penser que les gens vont être dans leur bureau là-bas et puis il va avoir une vision ouverte de. Non. Tu vas mettre. Vous savez, les chrétiens, ils sont graves, quoi. C'est-à-dire qu'ils écoutent, ils ne suivent pas les conseils du maître. Ils ne suivent pas les principes. Ils font comme ils veulent. Vous n'allez jamais ouvrir un magazine et puis vous allez voir la publicité d'une église. Centre évangélique, la vie parfaite. Culte, tant. Prière de guérison, prière de délivrance, conseil dans les affaires. Tu mets ça, on va dire, oh, c'est le diable, il est devenu le diable. Alors qu'il est en train d'appliquer les principes de l'évangile. Allez, parlez de votre assemblée. Parlez de votre pasteur. Prenez les produits, distribuez. Trouvez des endroits où les gens ont des besoins. Les hôpitaux. Moi, je suis prêt à distribuer les livres et les CD gratuitement dans certains endroits. Venez, vous dites, oh, je dois aller visiter un hôpital. Je vais vous donner un lot de livres avec des bibles. Allez distribuer. Allez. Passez en mode actif. Appelez les gens. Appelez les personnes que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Parlez-leur du Seigneur. C'est comme ça que vous allez exercer votre ministère. Grandir dans votre ministère. Amen. Et si vous avez une entreprise aussi, ne restez pas chez vous et dites, je fais les meilleurs beignets du monde. Même si tu fais les meilleurs beignets du monde, personne ne va savoir que tu fais les meilleurs beignets du monde si tu ne vas pas dans un supermarché avec un lot de beignets pour dire aux gens, goûtez mes beignets. Quand la personne vient, elle passe à l'entrée du supermarché et prend le beignet et goûte. Pendant tout le moment où elle fait ses courses, elle dit, non, mais le beignet, il était bon, hein. Au moment où il revient maintenant pour dire, je peux goûter encore, tu dis, ah, je suis désolé, il n'y a plus, c'est fini. Maintenant, il y a ce qu'on vend. Il va dire, ah, je voudrais un paquet, s'il vous plaît, ou je voudrais deux paquets. Pourquoi, d'après vous, les McDonald's, les KFC, ils n'arrêtent pas de faire la publicité? Ils n'ont qu'à arrêter. Ils sont déjà connus. Il y a McDonald's dans tous les quartiers. Tu n'as pas besoin de leur publicité pour savoir où ils se trouvent. Mais ils continuent de faire quand même. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu te rappelles d'eux. Ils veulent te contacter. Ils sont en train de te contacter. Toi, tu veux des miracles? Contacte ton miracle. Tu veux des percées? Contacte tes percées. Tu veux des connexions? Contacte les connexions. Je vais vous dire une autre chose. Et c'est par là que je vais finir. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un que vous devez rencontrer? Si, vous savez, si vous voulez rencontrer, si par exemple, je veux rencontrer quelqu'un de très important, généralement, si c'est pas 5 personnes, c'est 4 personnes ou 3 personnes qui se trouvent entre moi et puis cette personne. Est-ce que vous savez que sur la terre, on est tous connectés? On est tous connectés plus ou moins. Si toi-même, tu ne connais pas la personne, il y a quelqu'un que tu connais, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît la personne. Amen. Il y a quelqu'un que tu connais. Mais tant que tu ne dis pas, à la personne que tu connais là, que j'ai besoin de ça. Il ne pourra pas contacter la personne qu'il connaît pour dire, je connais quelqu'un qui a besoin de ça, qui ira dire à la personne qui peut répondre à ton besoin, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de ça. Tu peux te connecter à n'importe quelle personne sur la terre si tu fais ce que tu dois faire. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Apprenez de la vie de Jésus. Jésus était un modèle de réussite. Hein? Gens qui pensent que, oui, il faut prêcher l'évangile de machin ou de choses. Jésus était un modèle de réussite. Il était un modèle dans sa manière de faire. Tout ce qu'il a fait, si tu le mets en pratique, tu ne peux qu'avoir du succès. Amen. Tu ne peux qu'avoir du succès. Jésus lui-même, il n'a rien possédé. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'a rien possédé sur la terre, à part les habits que les gens se sont tirés au sort. Les vêtements, ses vêtements, les gens se sont partagés ses vêtements. Jésus n'avait pas de possession. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait 3 ans sur la terre. Vous pensez que si Jésus était resté plus longtemps sur la terre que les 3 ans de ministère qu'il a fait, mais oh my God. Même malgré ça, même pendant les 3 ans, tous ses besoins étaient pourvus. Le succès, ça s'obtient par une suite d'agissements et de comportements. Arrêtez de vous laisser séduire par le diable. C'est le diable qui dit que non, si tu as confiance en toi, c'est de l'orgueil. C'est faux. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que Dieu a mis en vous. Sachez que ce que Dieu a mis en vous est la réponse aux besoins de quelqu'un. Et allez dans le monde, parlez de ça, invitez les gens. N'ayez pas peur de faire de la publicité pour un talent que vous avez.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.